Alors, si vous vous souvenez, dans les derniers messages que j'ai apportés, c'était au début de l'année, vous vous souvenez du thème? Soyons sur nos gardes parce que nous sommes en guerre. Hein? Il y a une lutte, il y a un lion qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, et il n'y a pas d'exception. Hein? On a entendu des nouvelles, et ça devrait nous donner comme réflexe de « oh ». Oh, c'est bien vrai. On est dans une lutte et il n'y a personne qui est épargné. Personne qui est au-dessus, qui est exempté de la tentation. Et j'aimerais vous partager ce matin ce que j'ai appris avec les années, comment résister à la tentation. On a déjà abordé ce thème-là dans les derniers messages, mais j'aimerais ça qu'on se mette ensemble et que vraiment, on sort d'ici armé, équipé pour faire face à la tentation. On commence avec une histoire, un village de la Caroline du Nord, aux États-Unis, Nag's Head. Il y a 200 ans, ce village-là était surnommé le cimetière de l'Atlantique. 2300 bateaux, 2300 épaves dans les alentours qui se sont échoués sur des dunes qui étaient invisibles. Alors, les marins, les capitaines se promenaient avec leur navire et puis à un moment donné, ils frappaient une dune, puis le navire s'échouait. Et il y a des bandits, des malfaiteurs, qui ont eu l'idée de simuler une lumière. Ils prenaient des chevaux, ils montaient sur des chevaux avec des lanternes, et puis là, ils se promenaient sur la côte à cheval. Alors, la lumière se déplaçait. Là, durant la tempête, durant la nuit, les vaisseaux regardaient la lumière qui se promenait et devinaient ce qu'ils faisaient. Ils suivaient la lumière parce que, il y a un bateau qui a traversé en sécurité. Et puis, qu'est-ce qui arrivait? C'était pas long qu'ils frappaient la dune. Le bateau s'échouait, les marins sortaient de là. Et le lendemain matin, nos voleurs, nos bandits, ils allaient dévaliser les bateaux. Ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient sur le bateau, les marchandises, même les poutres pour la construction. Et aujourd'hui, dans le village, dans ce village-là, si on visite les maisons, il y a plein de ces objets-là qui décorent ou ont fait la construction des maisons. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Le malin a un plan. Le malin, il y a des lumières aussi, des fausses lumières, qui veut nous emmener sur une fausse route, puis qui veut qu'on échoue. Et il n'y a personne qui est exempt de ça. Comment faire pour discerner, comment faire pour ne pas tomber dans le piège? On commence avec le Notre Père, hein? Dans le Notre Père, la prière essentiel. Hein? On prie pour notre pain quotidien, mais on prie aussi pour notre tentation quotidienne. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. On pourrait traduire, ne nous laisse pas emporter dans la tentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est exempt de la tentation? Qui n'est plus tenté depuis qu'il est chrétien? OK, je pense qu'on est d'accord. Je ne ferai pas lever la main. Mais je vais être tenté jusqu'à ma mort. Hein? La tentation, elle est là, elle est bien réelle, ça va être jusqu'à ma mort. Et Jésus lui-même a été tenté, n'est-ce pas? Alors, si Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté, qui suis-je pour moi ne pas être tenté? S'il s'est essayé avec Jésus, à bien plus forte raison, il va s'essayer avec ses enfants. Alors, on lit ça dans Hébreux, hein, que Jésus a été tenté lui-même. Et c'est pour ça qu'il peut nous secourir. Parce que lui-même a été tenté, lui-même a remporté la victoire, puis on peut, nous aussi, remporter cette victoire, parce que lui l'a remporté pour nous. Il peut compatir aussi, il peut comprendre. Compatir, ça veut dire souffrir avec. Il sait ce que c'est qu'être tenté, et il peut souffrir avec les personnes qui le sont. Et on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On a besoin d'être secouru dans la tentation. On a besoin d'être protégé. On a besoin de la compassion du Seigneur parce que la vie sur terre, et spécialement dans notre société qui est de plus en plus païenne, qui est de plus en plus livrée à ses passions, de nager à contre-courant dans cette société-là, c'est un miracle. Mes frères, mes sœurs, vous êtes des héros, des héroïnes dans le Seigneur, d'être assis ici ce matin. Vous nagez complètement à contre-courant. Et c'est une grâce de Dieu. Bravo. Il y a une promesse, « Heureux l'homme qui supporte ou endure la tentation. » La tentation vient, mais au lieu d'entrer dedans, au lieu d'être emporté par la tentation, je passe au travers avec persévérance. Alors, c'est possible, on a une bénédiction pour ces personnes-là de ne pas être emportées. On a vu déjà une première porte d'accès du diable. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Qu'est-ce qui donne accès au diable dans la vie? En souvenez-vous? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. On a déjà vu ça. Hein? Que la colère la donne accès au diable. Hein? Et c'est intéressant parce que dans Paul, il cite le psaume 4, verset 5, qui lui dit « Tremblez, ayez peur, autrement dit. Hein? Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous, calmez-vous. » Alors là, ce n'est pas juste la colère, il parle de la peur. Et on pourrait ajouter toutes les autres émotions. Le diable peut entrer. On peut lui donner accès, il peut avoir la permission de nous torturer à travers nos émotions qui ne sont pas gérées, qui ne sont pas réglées comme Dieu veut que ce soit fait. Hein? Mettez-vous en colère, ne péchez pas, ne donnez pas accès. Il y a une période où la colère est légitime, elle est saine. Hein? Mais on pourrait dire, ne vous laissez pas emporter par vos émotions, ne vous laissez pas emporter par la peine, la tristesse, la peur, la culpabilité, la honte. Laissez-vous pas emporter par ça. Ne vous laissez pas emporter par la tentation. Mais quoi faire avec ça? Hein? J'arrive devant un lion, là, et est-ce que je peux dire, il ne faut pas que j'aille peur? Hein? Ça m'est jamais arrivé, peut-être que un voleur, un bandit, quelqu'un qui vous menace, est-ce que c'est légitime d'avoir peur? Parfaitement légitime d'avoir peur. Hein? Avoir peur quand c'est épeurant, c'est exactement comme ça que Dieu m'a fait. C'est comme ça que Dieu est aussi. Jésus, dans la mort, devant la mort, hein, il était angoissé jusqu'à des grumeaux de sang. Tellement la peur était puissante. Alors, dans le deuil, est-ce que c'est normal d'être dans le deuil lorsque quelqu'un qu'on aime est mort? Ou un divorce, un adultère? C'est normal de vivre ce deuil? Quand quelqu'un nous fait mal, quelqu'un nous pince, c'est-tu normal d'avoir mal? Oui? La colère, l'indignation devant l'injustice, devant quelqu'un qui est en train d'abuser, de faire du mal à un enfant devant toi, puis tu ne ressens pas de colère, tu n'es pas comme Dieu. Alors, ces émotions-là, hein, en tant que telles, sont parfaitement légitimes, sont parfaitement normales. Tu as une faiblesse, c'est normal dans une épreuve de sentir notre faiblesse, notre épuisement. Oui? Oui, parfaitement normal. Est-ce que c'est normal d'être excité par une tentation? C'est normal d'avoir de l'excitation devant une tentation? Parfaitement normal. Parfaitement normal. La solution ou le principe, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je fais avec ça? N'importe quelle émotion. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est là que ça peut se gâcher. Alors, que le soleil ne se couche pas sur ma colère, j'ai un certain temps avant qu'elle ne se transforme pas en lendemain matin en quelque chose qui est toxique, en quelque chose qui est du poison. Et ça, on peut faire la même chose avec n'importe quelle émotion. Le lendemain matin, lorsque elle n'est pas traitée comme Dieu veut que je la traite, cette émotion-là, elle peut devenir une porte d'accès pour le diable. Alors, quelqu'un qui est rempli continuellement d'inquiétude, est-ce qu'il peut être rempli de la paix de Dieu? C'est un ou l'autre, n'est-ce pas? C'est un ou l'autre. Et je dirais qu'il y en a un qui conduit à l'autre. L'inquiétude en tant que telle, comme je disais tantôt, hein, tremblez, agitez-vous. Il y a une certaine période, c'est parfaitement normal de ressentir de la peur devant quelque chose qui est épeurant ou de l'inquiétude devant quelque chose qui est inquiétant. Parfaitement normal, mon frère, ma soeur, t'es normal. Hein? Maintenant, si cette inquiétude-là, qui est légitime, elle n'est pas traitée le lendemain ou dans quelques jours, elle va se transformer en angoisse, elle va se transformer en anxiété, ça va se transformer en peur maladive. Qui ouvre la porte au diable à un esprit de peur, un esprit d'inquiétude. Hein? Ce n'est pas un esprit de timidité, de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et si le diable a cet accès-là, il va venir te tourmenter dans tes pensées, dans ton cœur, puis il va venir te tirailler avec ça, puis tu ne dormiras pas de la nuit, je te le promets. On est dans une lutte et une porte d'entrée de l'ennemi, c'est mes émotions. Comment est-ce que je gère mon inquiétude? Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous en souvenez-vous? Un passage très, très connu. Hein? Qu'est-ce qui va, en s'inquiétant, qui va régler des problèmes? Hein, si on s'inquiète toute la nuit, là, on se réveille le matin et on a réglé notre problème. On pense qu'on a réglé notre problème, peut-être. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Hein? Il dit, « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. J'ai été longtemps dans l'inquiétude à propos de quelque chose. Longtemps, torturé par l'inquiétude. Et ce petit verset-là, ça m'a calmé, là. Mon Père céleste, il sait que j'en ai besoin. » Lorsque j'ai dit ça, lorsque j'ai compris ça, lorsque j'ai cru à ça, mon Père, il sait ce que j'ai besoin. Et il va me le donner dans son temps. Crois-tu ça? Crois-tu que Dieu va te donner la réponse à ton inquiétude en son temps? Si oui, là, tu peux aller te coucher sur l'oreiller dans la barque avec le Seigneur. Hein? Vous avez ce... Il y a cette... pas si on le voit comme faux, là. Voyez-vous Jésus? Ça m'aide beaucoup aussi. OK, Seigneur, plein d'inquiétudes, plein d'affaires à préparer, plein de choses à voir. Mais si demain matin, je ne veux pas me lever fatigué, angoissé, épuisé, Seigneur, je vais aller me coucher sur ton oreiller. Je vais m'endormir en paix sur l'oreiller du Seigneur. Il était en pleine tempête, là. Les disciples, ils étaient énervés. Y avait-tu raison d'être inquiet? En pleine tempête, là, il allait couler. Hein? OK, Qu'est-ce qui les a sauvés? Jésus, le Sauveur, Dieu, est dans la barque avec eux, puis ils ont peur qu'ils vont couler. Dans le journal, le lendemain, les apôtres, 12 apôtres morts dans une barque. Pendant que Jésus dormait. Non, non, ça ne marche pas. Hein? Alors, en quelque part, il y a un pas de foi à faire. Là. On doit dire non. Ou bien je me laisse emporter par la tentation, je me laisse emporter par l'émotion de l'inquiétude, ou bien je la traite par le verset qu'il y avait avant. Ne vous inquiétez de rien. Moi, je traduirais ne continuez pas à vous inquiéter continuellement de rien. Mais en toute chose, voici comment on règle l'inquiétude. Faites connaître vos besoins à Dieu. Le Seigneur sait de quoi j'ai besoin. Des prières, des supplications, des actions de grâce. Il y a un combat, là. C'est rare que automatique, là. J'ai fait confiance au Seigneur, puis j'ai plus d'inquiétude. Il y a tout un combat. Et même, je peux avoir la paix pour un certain temps, mais ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas cogner à la porte, là. Puis l'inquiétude ne viendra pas cogner à la porte. Puis que le diable peut utiliser ça. Alors, et la paix. Le résultat, c'est la paix de Dieu qui va venir. Alors, c'est un choix. Le choix, c'est essayer de tout faire dans la barque pour que ça coule, ou aller te coucher avec Jésus, t'endormir sur l'oreiller avec Jésus, avoir la foi, la confiance que Dieu t'aime, que ton Père y prend soin de toi. D'accord? Ça, c'est une façon de résister à la tentation de l'inquiétude. Tu lui remets tes inquiétudes, qu'est-ce que lui fait? Te donne la paix. La paix de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas ça? Qu'est-ce qui arrive si on ne fait pas ça? Un petit mot. Contrôle. Je vais contrôler les événements. Je vais contrôler les circonstances. Je vais contrôler les autres personnes. Puis je vais avoir la paix. Je vais avoir la paix. Ça va être pire, une spirale. Une spirale sans fin. Parce que la paix qui dépend de toi, là, ça va pas fort. Ça va pas très loin. Il y a la paix de Dieu qui, elle descend profondément. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'inquiétude, la peur? On laisse mijoter ça? Ou bien, en quelque part, on prend la décision de faire confiance à Dieu? Seigneur, tu m'aimes, ma vie est dans tes mains et j'ai confiance. Toutes mes inquiétudes, comme on a vu tantôt, ça ne changera pas rien. Tous mes plans pour me donner la paix, ça ne changera absolument rien. Alors, en quelque part, Seigneur, je te fais confiance. Le remède à l'inquiétude, c'est la paix de Dieu. Alors, à partir de maintenant, je sais que le diable peut entrer à travers mes émotions et celle de l'inquiétude en particulier. On a déjà vu la colère. Comment on règle la colère? En pardonnant à la personne qui nous a offensés. Et pardonner, ça veut dire qu'au lieu de me venger moi-même, au lieu de me faire justice moi-même, je prends la personne qui mériterait que je l'étripe, je la prends par les deux épaules et je la remets entre les mains de Dieu. Et c'est lui son juge, c'est plus moi. C'est plus moi qui le juge. Si je ne pardonne pas, je vais devenir le juge. Je vais m'asseoir. Qui es-tu, toi, qui juge? Il se tient debout, s'il tombe, se le regarde. Son maître, c'est pas toi, son maître. Alors, On a vu quoi faire de l'inquiétude. Même chose avec le péché. Tu as commis une faute. Est-ce que c'est normal de ressentir de la culpabilité? Oui. Si tu n'en ressens pas, là, pas sûr que tu es un enfant de Dieu. Hein? Le travail de l'Esprit de Dieu, c'est de nous convaincre de péché. Alors, c'est normal de ressentir de la honte, du remords d'avoir fait ça. Comment j'ai pu faire une telle chose? Parfaitement normal. Mais le lendemain, si cette culpabilité-là, si cette honte-là n'est pas traitée comme Dieu veut que ce soit traité, ça va se changer en quelque chose de toxique, en du poison. Exactement comme Judas a fait. Qu'est-ce que Judas a fait avec sa culpabilité, avec sa honte, son remords? Il s'est noyé dedans. Il s'est noyé dedans. Il n'a pas cru au pardon de Dieu. Il est allé s'enlever la vie. Il s'est condamné lui-même et il a exécuté la sentence lui-même. Mais pas obligé de se suicider physiquement. Il y a bien des chrétiens qui, dans cette situation-là, vont aller se suicider moralement. Ils vont tout lâcher. Et ils vont se livrer. Hein, je n'ai plus rien à perdre. Je ne crois pas au pardon de Dieu. Et là, je me lance dans la débauche. J'essaie de m'anesthésier avec toutes sortes de choses qui me privent du pardon de Dieu. Il y a une tristesse selon le monde, et je pense que Judas en est un bon exemple. Judas s'est apitoyé sur lui, il a laissé la culpabilité, la honte, le remords l'envahir, il était emporté par ça, et ça a produit la mort. Mais une autre tristesse qui vient de Dieu, hein? Tristesse selon Dieu, qui produit une repentance qui mène au salut, et que l'on on ne regrette pas. Parce que quand c'est quelqu'un qui avait trahi Jésus lui aussi, puis qui a eu la tristesse selon Dieu, Pierre. Souvenez du regard que Jésus a, hein? Quand il a vu Pierre, les regards se sont croisés, Pierre et Jésus, après la condamnation. Et là, Jésus il a regardé Pierre, là. Il a dit, « Toi, mon espèce de salaud, mon espèce d'écœurant, mon espèce de traître, je te l'avais bien dit, hein? Regarde ce que tu as fait, hein? » C'est ça qu'il a vu dans les yeux de Jésus? Non, c'est quoi qu'il a vu? Il s'est rappelé, juste quelques jours avant, Jésus savait que Pierre allait le renier, hein? Puis il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, il veut vous passer à la tentation, vous allez être tenté. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'as nié trois fois de me connaître. Il est tombé de haut, n'est-ce pas? Le gros égo, il est mort. Et il a besoin, et tous les disciples avaient besoin de passer par là. Leur gros égo meurt. Et il s'est relevé. Il n'est pas resté dans l'apitoiement, il n'est pas resté dans la honte et le remords. Il s'est repenti, le mot... sera revenu à moi, là on pourrait traduire se repentir, se convertir même. Hein? Tu vas être un exemple pour tes frères. C'était qui le premier qui est allé au tombeau puis qui a vu Jésus? Les dames sont allées, mais le tombeau était vide. Premier au tombeau, c'était Pierre. Oui, c'est ça. Jean est arrivé en premier, il n'est pas rentré. Et c'est Pierre qui est rentré, c'était Le tombeau, le trou est en bas. Il fallait qu'il se penche. Hein. Mais l'idée, c'est il ne s'est pas isolé. Hein? Il est allé retrouver la communion avec ses frères qui étaient, comme lui, pécheurs. Et il a relevé ses frères. Alors, là, c'est, le diable peut entrer à travers nos émotions. On a vu quelques-unes, la colère, l'inquiétude, la honte, la culpabilité. Si ça n'est pas traité comme Dieu veut que ça soit traité, le lendemain ou dans quelques temps, ça va se transformer en quelque chose. C'est-tu clair? Nos émotions, là, gérons ça, mon frère. Tu n'es pas tanné de vivre là-dedans. Empêcher l'amour de Dieu, empêcher la paix de Dieu, la vie en abondance qui a pas tanné d'être esclave de ce qui a triomphé de toi, d'être mené par la peur, d'être mené par la colère, l'inquiétude, le doute, la culpabilité. Tu n'as pas assez gâché ta vie comme ça? Saisis l'amour, la joie, la paix que Dieu veut que tu vives. Il veut que nous vivions ça, pas dans l'inquiétude, pas dans la colère, pas dans le péché, dans la culpabilité. Je l'ai dit souvent, c'est ceux qui m'ont entendu, si tu n'es pas heureux aujourd'hui, tu ne le seras pas demain. Si tu n'as pas la paix aujourd'hui, ce matin, tu ne l'auras pas demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la paix. C'est aujourd'hui le jour de l'amour. C'est aujourd'hui le jour de la joie. Fais ce qu'il faut pour mettre fin à ces émotions-là qui te gâchent ta vie. Amen. Deuxième porte d'entrée, les émotions. On en a vu quelques-unes et c'est comme ça que j'ai appris à me battre. Mais il y a une deuxième porte d'entrée, il y a ce qu'on ressent, mais la deuxième porte d'entrée, c'est nos pensées, notre esprit. C'est là que le diable peut venir nous attaquer. Comment est-ce qu'il s'est emparé de l'humanité, le diable, qui est devenu le prince de ce monde, le dieu de ce siècle? Comment il a fait ça? On va aller voir ça. On le sait tout, là, mais c'est par nos pensées en particulier. Hein? Adam et Ève, ils dominaient sur la terre. J'ai fait une recherche, Adam et Ève. Faites pas ça. Faites pas ça. Il va revenir toutes sortes d'images. Ouais. Mais on a un bouton, hein? Supprime. Le plus rapide on arrive à ça, mais. Adam et Ève, ils dominaient, ils étaient dans. Hein? Le diable n'avait aucun pouvoir sur eux. Ils étaient dans un état d'innocence, sans péché, et exempt du mal. Je pense qu'ils n'auraient même jamais pensé à désobéir. Si ça n'avait pas été du diable. Qu'est-ce que l'ennemi est venu faire? Il est venu injecter dans leur pensée un mensonge. Un mensonge. On a déjà vu qu'il a passé à travers les yeux, ce qu'ils voyaient, c'était attirant, à travers leur appétit naturel, qui n'était pas déchu à ce moment-là. Il s'est servi de ça pour... Mais ce qui a causé la chute, c'est ce mensonge-là. Ce mensonge-là. Hein? C'était quoi la parole de... Oh! Alors, juste pour terminer avec l'émotion de l'inquiétude ou du doute, voyez la spirale, là? On peut partir d'en bas, de la peur, la culpabilité, la honte, la rancœur, la haine, mais c'est possible d'en sortir. D'avoir la paix, l'amour et la joie. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma sœur. Il veut que tu sortes d'ici dans la joie, dans l'amour, dans la paix, et que tu ne sois plus torturé par le diable qui t'envahit avec toutes ces pensées-là. Alors, c'est Je trouvais ce dessin-là qui illustre bien la différence. Mais il y a trois. Le diable a eu accès à travers, regardez, la fin de 1 Jean 2,16, l'orgueil de la vie. Et c'est Jean qui interprète, je pense, Genèse 3, et qui traduit orgueil de la vie, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, ils ont vu, leur sens leur disait que c'était bon à manger, ça avait l'air bon de l'extérieur aussi, mais ce qui a fait qu'ils sont tombés, c'est ce mensonge-là, cette flèche que le diable a pu leur imprégner. Est-ce que c'était épouvantable de manger un fruit? Dégueulasse, non? Non, ça valait bien correct à leurs yeux. Hein? Aujourd'hui, on pourrait dire tout le monde le fait, puis ils ont du fun, puis s'ils le font, puis ils ont du fun, ça devrait être bon. Hein? Alors, Satan ne s'est pas présenté comme le menteur, l'accusateur, ou le... Il s'est pas présenté comme ça, là. Il s'est présenté tout en douceur. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire succomber à ce qu'il soit emporté dans la tentation. Subtilement, doucement. Il y avait un commandement à l'époque, hein? C'était quoi la parole de Dieu? Un verset. Parole de Dieu, chapitre 1, verset 1. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce qu'elle a bien compris? La femme a répondu, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Elle a ajouté, vous n'y toucherez point, peut-être c'est un pas de plus. De peur que vous ne mouriez. Mais le diable, il arrive, lui, puis qu'est-ce qu'il dit? Dieu a-t-il réellement dit ça? Tu n'en mangeras pas de tous les arbres? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Vous êtes bien con de croire à ça. Hein? Vous êtes bien stupide. Dieu a réellement dit de pas. Hein? Il sème le doute. Il sème le doute sur la parole de Dieu. Est-ce que de faire ça, c'est vraiment mauvais? Si je regarde le monde, là, ils ont bien du fun. Hein? Ils se payent toutes sortes de choses. Dieu a-t-il réellement dit tu ne coucheras pas avec une autre personne avant le mariage? As-tu vraiment dit ça? Hein? Etc., etc. Et il arrive à la fin. Le serpent dit à la femme, carrément, vous ne mourrez pas. Hein? Moi, je vous dis, là, vous ne mourrez pas. Dieu, il sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir, puis vous allez être comme lui. Hein? Vous allez être comme des dieux, comme lui. Vous allez avoir la liberté de choisir pour vous qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Vous allez pouvoir expérimenter le plaisir au niveau de Dieu. Là, il va carrément à l'inverse de ce que Dieu avait dit. Il commence subtilement, semer le doute sur les qualités de Dieu, sur les intentions de Dieu, sur l'amour de Dieu, ce que Dieu nous aime vraiment. Et il vient avec le mensonge, carrément dire, « Vous ne mourrez pas. » Oui, oui. Alors, j'ai le choix entre la parole de qui? La parole de Dieu et la parole de Satan, du diable. Et s'ils sont tombés, là, est-ce qu'on peut nier le pouvoir de séduction du diable? Mes frères, mes sœurs, soyons vigilants. Soyons vigilants. Il a ce talent pervers, il a cette capacité perverse de s'infiltrer dans tes pensées, de faire luire une lumière, hein, une lueur, de penser que ça va t'apporter la sécurité, le bonheur, la paix, l'amour, la joie. Puis qu'est-ce qui arrive au bout? L'épave, hein? Le naufrage, la ruine. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire nos premiers parents? Heureusement, il y a tentation prise d'eux. Il y a deux tentations dans la Bible. Il y a la tentation d'Adam et Ève, et il y a la tentation de Jésus. On a deux choix. Hein? Quelle était la... Comment est-ce que Jésus a résisté à la tentation? Vous en souvenez? Hein? C'est clair. Clair. Alors, le diable, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu... » Encore le doute, non? C'est vraiment le Fils de Dieu. Comment ça se fait que Dieu te prive de nourriture? Quel Dieu que c'est ça, qui te fait passer par des épreuves terribles. Quelle sorte de Dieu que ça doit être ça? Hein? Comment ça se fait que tu as tant de misère? Si tu es le Fils de Dieu, et Jésus répondit, il est écrit. Hein? Il est, voici ce que Dieu dit. Voici ce que le diable dit, et voici ce que Dieu dit. Lequel tu choisis? Trois fois, hein? Jette-toi en bas, car il est écrit. Il cite la parole en plus. Hein? Et Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et la dernière, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Trois fois, il résiste à la tentation, comment? Par la vérité, par la parole. Souvenez-vous d'une autre fois, Jésus a dit, « Retire-toi, Satan. » À Pierre. Il a discerné que ce n'était pas Pierre là, qui... il y avait le diable qui venait le repiquer, hein, l'empêcher d'aller à la croix. Alors, mes frères, mes sœurs, un bon truc. Hein? On a déjà vu, on a déjà fait ça. Il y a sept sources de voix. Il y a des voix qui nous parlent continuellement, qu'on se parle, qu'on entend. Ça vient d'un peu partout. Alors, il y en a trois qui sont mauvaises. Il y a trois voix, là, qui nous parlent. Il y en a une qui vient de ma chair stupide, qui, elle veut toujours mordre dans n'importe quoi. Peu importe si c'est du poison, ça n'a pas d'importance. Elle est prête à mordre n'importe quoi. Ça fait 50 ans que je suis chrétien. Ma chair stupide est encore aussi stupide par sauter sur n'importe quelle convoitise du monde. Tout le temps. Mauvaise nouvelle, ça ne part pas. Hein? À moins que on y vient. Alors, ça peut être ma chair, ça peut être le monde à l'extérieur, hein? Avec toutes ces convoitises. On va voir tantôt comment la pornographie, comment c'est rendu terrible. Hein? Alors, le monde, il nous offre plein de plaisir au lieu de la joie dans le Seigneur. On peut s'amuser à notre goût? Hein? Alors, il y a toutes ces ouvertures-là, ces opportunités-là de sombrer, d'être emporté par la tentation à travers ma chair, à travers le monde. Et il y a aussi le diable, les esprits méchants, un esprit d'inquiétude, un esprit de peur, un esprit impur, nommez-les. Hein, ils sont là, et lorsqu'il y a la moindre petite ouverture, là, lorsqu'il sent que quelqu'un est inquiet, puis qu'il est angoissé, lorsqu'il sent que quelqu'un est coupable, puis il se tape dessus, lorsqu'il sent que quelqu'un est en colère, puis... ça dégage une odeur, ça. Puis la vermine sent cette odeur-là, puis tu peux être certain que tu vas avoir affaire à des mauvais esprits. Ils ne rateront pas leur chance. Ils veulent te détruire, ils veulent détruire ta famille, ils veulent détruire l'Église. C'est là, nous sommes l'ennemi juré du diable. Alors, si tu es capable de dire, et là, c'est mon truc... Un vieux combattant, là, d'avoir un truc pour résister à la tentation, là, ça vient d'où ça? Répétez après moi. Ça vient d'où ça? Encore. Ça vient d'où ça? Ce désir-là, cette pensée-là, cette émotion-là, ça vient d'où ça? Wow! Si, là, je vous donne une arme puissante là, contre la tentation. Le plus vite tu vas dire ça vient d'où ça, le plus vite tu peux déliter, supprimer. Si tu es capable de dire, cette pensée-là, elle vient-tu de Dieu? Et souvent, 99%, tu vas dire oui ou non. Ah non, ça ne vient pas de Dieu. Bien, si ça ne vient pas de Dieu, là, tu vas-tu gaspiller tout ton temps, ton énergie à te tourmenter pour ça? En écoutant la parole du diable? Vas-tu ruminer la parole du diable pendant une heure, deux heures, une nuit, trois jours? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'où ça vient, ça? Au nom de Jésus-Christ, hein, je détruis cette pensée-là, cette image-là, cette impression-là, cette émotion-là, cette... pas l'émotion, mais vous comprenez ce qu'on fait avec l'angoisse. Le... Alors, non, je continuerai pas à m'enfoncer, à être emporté par ce mensonge-là qui vient du diable. Alors, d'où ça vient ça? Tu es capable de dire du diable, ma chair, du monde, stop, wow! Hein? Si tu es capable de faire ça, là, tu vas pousser un grand yark. Il y a wow, hein? Puis il y a yark. Ouais, parce que ton nouveau cœur, il crie yark. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, il crie yark. Hein? Puis l'Église, les frères et sœurs ce matin, là, on crie « Yark ». Y a-tu quelque chose dans ta vie qui n'a pas d'affaire là? Yark. Hein? Là, ce que je vais dire, c'est précieux, c'est profond. Si tu n'es pas fidèle dans les petites tentations, qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand la grande va arriver? Alors, pratique-toi, mon frère, ma sœur. Et la victoire dans les petites tentations. Puis il n'y en a pas des petites. Hein? Comme je dis souvent aussi, comment est-ce qu'on tue un serpent? Le plus facilement? Dans l'œuf. Hein? Merci, Jean-Paul, ça m'encourage. Hein, tu fais une recherche, Adam et Ève, puis ça, t'as des affaires, là. Oh boy! Délit. Le plus vite tu délit. Hein, tu regardes un film, puis tu ne t'attendais pas à ça, il y a une scène d'adultère, peu importe. Hein, tu as la fonction là, avancée, là, fast forward. Hein? Et le plus vite tu fais ça, le plus souvent tu fais ça dans les petites tentations, les choses ordinaires, si on peut dire, de tous les jours, bien tu vas être fort quand la tentation plus grande va venir. Il y a Jean-Marc Dupuis, dans la lettre de Santé Nature, il dit que Internet offre aussi de dangereuses illusions d'échappatoire, l'amitié, l'amour et le sexe virtuel. Je n'ai qu'à cliquer et je peux réaliser, ou du moins me donner l'illusion de réaliser tous mes fantasmes seuls dans mon coin. Et le nombre de personnes qui tombent dans le piège est effrayant. Selon une étude publiée par le Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, les garçons commencent à regarder des films porno sur Internet à partir de 12 ans en moyenne. Ensuite, 63% continuent à les regarder toutes les semaines et 10% tous les jours. 73% de nos jeunes ados vont sur Internet pour regarder des affaires pornographiques. À grande échelle, ce sont des machines, des mémoires d'ordinateurs qui fournissent à la plupart des hommes occidentaux aujourd'hui non seulement leurs premiers émois affectifs, mais également leur vie affective et sexuelle plus tard, qui ne se fait qu'avec des images et bruitages préenregistrés et reproduits sur écran artificiel. Parallèlement, progresse le nombre des jeunes de 18 à 24 ans qui déclarent souffrir de solitude. Ils sont désormais 49 % selon une étude à ne pas parvenir à développer assez de liens affectifs satisfaisants avec leur entourage. Ils ne sont plus capables de venir en relation. Toute leur sexualité est complètement bousillée, gâchée. Si on parle de nos ados, là. Mais les hommes adultes, c'est pas comme ça. Les femmes non plus, j'imagine. On n'est pas comme ça. Hein? Peut-être pire. Je parle en général, là, dans notre société. Dans ce que le monde pratique. Alors, si je suis fidèle, mon frère, si tu es fidèle dans les petites choses, tu vas l'être dans les grandes. Hein? Y a-t-il quelque chose qui t'excite? Là, on parle de sexe, mais ça peut être bien d'autres choses. Hein? Y a-t-il quelque chose vraiment qui t'excite? Puis dans lequel tu succombes. Jésus a dit, si on regarde une femme, on commet l'adultère avec elle dans son cœur. Il manque un petit bout pour la convoiter. Alors, c'est pas parce que je vois une belle femme ou une scène que c'est péché. C'est qu'est-ce que je fais avec ça? Hein? Si je convoite dans mon cœur, dans mon imagination, là, je succombe, je suis emporté par la tentation. Alors, tue le serpent dans l'œuf tout de suite. Puis si tu pratiques ça, tu as l'occasion de pratiquer ça tous les jours, surtout en été. Hein? On met une barrière, hein, à nos yeux. Vive les femmes voilées. Non, non. Non, vive les gars avec des yeux qui ont une garde. Alors, je sais que c'est lourd ce matin, mais je veux terminer avec quelque chose de joyeux. Il va y avoir une vidéo, hein, Pascal? Pendant que Pascal va préparer ça, j'aimerais...